Mais d'abord, Monsieur Lavoie.
Bernard.
Oui, Luc.
Écoute.
Non, mais est-ce que tu aimes mon expression que j'ai créée comme ça, là, spontanément, le vin du péché?
Écoute, si tu savais comme je fais attention puis que je me retiens.
Luc, retiens-toi, ça a toujours meilleur goût quand tu te
retiens.
D'ailleurs,
je vais écouter Martin Carly, il va m'expliquer comment me retenir davantage.
Oui, continue à te retenir, Luc, ne glisse pas, restons sur la pandémie. Et d'ailleurs, il y a quelque chose de très sérieux qui s'est produit ce matin. Il y a un premier ministre.
Ah, incroyable.
Le premier ministre de la plus grande province au Canada, le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, très ému, qui s'est excusé aux Ontariens. Je vous présente un extrait de ce point de presse que Luc va analyser tout de suite après. Écoutez bien, le premier ministre ontarien, très émotif.
Healthcare workers who've been pushed to the absolute limit, working to save lives. I want you to know that I hear you. I understand you're going through. I understand your frustration. I'm sorry, and I apologize. Each and every one of you.
Alors, il s'est excusé, si j'ai bien compris, Luc, il s'est excusé notamment pour les décisions impopulaires qu'il a prises ces derniers jours, qui ont été très contestées, même par les policiers eux-mêmes.
La scène elle-même était quelque chose, Bernard.
Décris-la, là, pour les gens qui ne l'ont pas vu. Moi, j'ai même pas vu la vidéo, j'ai juste entendu le son, là.
Il est en isolement préventif. Il est derrière la maison de sa défunte mère. J'imagine que c'est là qu'il a choisi de s'isoler. Il est devant une caméra de type iPhone ou un téléphone portable. Et il parle, on l'entend dire, bon, il présente ses excuses, on l'a entendu. Puis là, il dit, nous sommes allés trop vite. J'admets que certaines des mesures que nous avons annoncées sont allées trop loin. Nous nous sommes trompés, nous avons fait une erreur. Ces décisions ont laissé beaucoup de gens inquiets, en colère et bouleversés. Je suis désolé, je m'excuse sincèrement. Et là, il ajoute, je m'excuse auprès des gens d'être émotif. La responsabilité est énorme. Cela nous touche-t-il, dit-il? Parfois, oui. Alors, quand tu remets ça dans le personnage qui est Doug Ford, c'est-à-dire un colosse, un homme de 6 pieds et 2 au moins, un solide 250 livres, avec une grosse tête quasiment épeurante.
Et dont l'émotion n'est pas la, mettons, la première caractéristique.
Voilà, hein? On le voit pas vraiment de cette façon-là. Alors, je l'ai écouté, là, puis c'est comme, ouh, ça m'a comme donné un frisson, mais en même temps, est-ce que c'est bon qu'on voit son leader dans cet état? Est-ce qu'un général qui se mettrait à devenir émotif devant ses troupes à cause de la difficulté à franchir une zone ou autrement? Je ne sais pas. En fait, je peux dire qu'il était certainement sincère. Il faisait référence à la fermeture annoncée des structures de jeux pour enfants, des pouvoirs spéciaux accordés à la police, deux mesures qui ont soulevé la grogne des Ontariens. Mmh. Mais le gouvernement reculait en moins de 24 heures.
Mais que les gens nous suivent bien, quand il a annoncé qu'il donnait ses pouvoirs extraordinaires aux policiers, essentiellement le droit d'arrêter qui il voulait, quand il voulait, pour s'assurer là, qu'ils avaient le droit d'être sur la voie publique, parce que sinon, ils devaient être à maison, il y a des corps de police qui sont sortis, plusieurs corps de police, dire on ne va pas obéir à ces consignes-là. Et moi, je me souviens pas que ce soit arrivé au Canada, là, des corps policiers qui disent, nous n'obéirons pas au gouvernement.
Ouais, c'est assez particulier, en effet. J'étais estomaqué, moi, de voir ça. Enfin... Il dit qu'il s'est défendu aussi d'être responsable de la situation sanitaire désastreuse. Et là, je le cite, « Ce n'est pas moi qui ai gardé les frontières ouvertes ou qui n'a pas obtenu assez de vaccins. »
OK, là, il blâme très directement Trudeau.
Ben,
hein?
Oui, évidemment. Ouais, ouais. Puis là, tout le monde fait appel à sa démission, les chroniqueurs autant que les chefs de l'opposition et tout ça. Et lui, il leur répond, « Les chroniqueurs et les médias ont le droit de dire ce qu'ils veulent. Je vais nous sortir de cette pandémie. Je ne vais pas reculer. » Ouf!
Moi, je vais te dire, Luc, tu poses la question, est-ce que c'est bon qu'un leader comme ça, en pleine crise, ait un moment d'émotion et s'excuse? Moi, je pense que oui.
Tu t'excuses, oui, c'est bon.
Si c'est senti, si on sent la sincérité, si on sent pas du calcul, je pense que Ford, en tout cas, il avait l'air sincère. Là, moi, je le connais pas intimement.
Je suis convaincu qu'il l'était. Bon. Je le connais, moi.
Tu le connais?
Oui.
Tu penses qu'il était sincère? Convaincu. Moi, je pense que les gens apprécient la sincérité. Là, par contre, tu dis son émotion, là, ça peut passer quoi? Tu crains que ça passe pour de la faiblesse? Pis on n'a pas besoin de faiblesse quand on gère une crise? C'est ça que tu veux dire?
Ben, c'est parce que je continue à faire ma métaphore guerrière que tout le monde fait. Un général dont l'armée est en train d'avoir des grandes difficultés ne peut pas se présenter devant ses troupes les larmes aux yeux. C'est simplement ça que je veux dire. C'est la nature humaine de dire « Oh boy, il a besoin d'une pause, là, lui. » Mais c'est ce que c'est, puis les gens décideront comme ils veulent. Il y a une chose que je confirme. Convaincu que le gars était très sincère.
Okay.
Et on s'appuie sur, encore une fois, 3682 nouvelles infections et 40 morts de plus jeudi. Il n'y avait pas eu autant de décès en une journée depuis février. La moyenne quotidienne des nouveaux décès au cours de la dernière semaine est actuellement de 27,1. Il s'agit du plus haut niveau atteint depuis le début de la troisième vague. La moyenne des nouveaux cas par jour de la dernière semaine, c'est 4176. Heureusement, sa machine à vacciner s'est mise en branle. 134 920 doses dans les dernières 24 heures, puis la veille, c'était à peu près le même chiffre. Alors, il y a au moins ça qui marche, et on voit les chiffres descendre. On ne peut pas dire qu'ils montent, là. Ils sont en bas de 4000 depuis une couple de jours. J'ose plus employer le cliché, il y a de la lumière au bout du tunnel, là, parce qu'on ne sait plus.
Non, c'est vrai, t'as raison. C'est intéressant les réactions, Luc, des auditeurs. Il y en a un qui dit, fais attention, Luc, à l'interprétation, parce que le peuple n'est pas une armée. Donc, cet auditeur a l'air de dire que la métaphore
a ses limites.
La métaphore de l'armée, de la guerre a ses limites. Il y en a d'autres qui disent, un petit peu, c'est bon de se montrer humain. Il y en a quelques-uns qui me disent, Legault devrait l'être davantage. Bravo Ford pour votre humilité. Luc, oui, c'est vrai que l'Ontario est allé trop loin. Monsieur Trudeau pleure aussi parfois, me rappelle un auditeur, Luc.
Ouais, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai peur que les gens réagissent mal.
Mais tu vois,
Trudeau a pleuré, je sais pas combien de fois.
Ouais, ben, à un moment donné, on trouvait que c'était trop, là.
Ouais, puis il pleure plus, comme par hasard.
Ben, justement, parce que là, je pense qu'il avait épuisé son capital lacrymal.
Ouais, c'est ça. Hein?
Mais tu vois, il y en a un qui dit, Ford est brillant, il vient de s'acheter du capital de sympathie. Personne n'a envie de taper sur celui qui pleure.
Oui, c'est vrai. Puis en même temps, il est atteint de la COVID. Hein. Je m'excuse.
Oui, c'est
ça. L'isolement préventif.
Oui, voilà, voilà.
Peut-être l'est-il parce qu'on ne le sait pas encore. Là, mais
exact.
Allons aux États-Unis. Oui. 200 millions de vaccins. C'est des chiffres incroyables. Hein. Et c'est hier, je le cite, là, c'est le président Biden. Aujourd'hui, nous l'avons fait. Aujourd'hui, nous avons atteint 200 millions d'injections une semaine avant son 100e jour à la tête des États-Unis. Mm-hmm. Biden a parlé d'un exploit incroyable pour la nation américaine. Il a estimé que l'objectif qu'il avait fixé n'avait pas d'équivalent dans le monde ou dans les précédents efforts de vaccination de l'histoire américaine. Il a quand même pris le temps de dire « On n'est pas encore au bout du combat. Si nous baissons notre garde maintenant, ce virus va ramener nos progrès à zéro. »
Oui.
Oh boy.
Oui.
Parce qu'il faut savoir là que malgré la campagne de vaccination, le nombre de cas quotidiens reste élevé à environ 63 000 nouvelles contaminations en moyenne sur les 7 derniers jours. Je te rappelle que ça se compare à 250 000 il y a à peu près un mois. Là. Certains États comme le Michigan sont vraiment très, très touchés. Mais le nombre de décès reste toutefois en baisse au niveau national. Puis, évidemment, ils sont allés par groupe d'âge comme nous. Et voilà. Mais ce qui est intéressant ici, c'est le cas de cette maison de retraite. Il y a une maison de retraite aux États-Unis où les cas de COVID ont explosé en mars, mais les résidents étaient pourtant vaccinés à plus de 90 %. Et ça, c'est arrivé suite à l'introduction d'un variant par un membre non vacciné du personnel. Je trouve ça quand même, c'est très négatif ce que je viens de dire. Mais on apprend des choses par ça. Le virus s'est propagé dans cet établissement du Kentucky. Il a contaminé 44 personnes, dont 24 résidents, 20 personnes, 20 membres du personnel soignant. Mm-hmm. Et 18 et 4, respectivement, avaient pourtant reçu deux doses du vaccin Pfizer. Alors, c'est comme une façon de faire des comparatifs quant à la vulnérabilité des personnes contaminées. Le CDC, le Center for Disease Control, a pris parmi les résidents contaminés un tiers des vaccinés ont souffert de symptômes.
Oui.
Contre 83 % des non-vaccinés. Et seuls 11 % des vaccinés ont dû être hospitalisés, quand cela a été le cas de deux tiers des non-vaccinés. Enfin, un seul résident vacciné sur 18 a succombé au virus. Parmi les non-vaccinés, au nombre de 6, 2 ont perdu la vie. Donc, ça nous ramène un peu à la réalité des pourcentages qu'on nous lance au visage. Vous êtes, avec le AstraZeneca, disons, je pense qu'on dit 65 % de protection. Bien, 65 % de protection, il faut le débattre puis regarder de quoi il s'agit. On est presque garanti à 100 % avec le AstraZeneca qu'on ne mourra pas de la COVID.
Oui.
On est aussi à peu près à 100 % proche de 100 % qu'il n'y aura pas de
séquelles?
Des séquelles, ça, je ne le sais pas, mais on n'aura pas de maladie aiguë.
Ah oui, on ne tombera pas malade.
On ne tombera pas gravement malade.
Oui,
on aura des symptômes.
Oui, OK.
Mais voilà. Mais moi, ce que j'aime comme conclusion du CDC, c'est pour protéger les résidents des maisons de retraite, il est impératif que les personnels soignants ainsi que les résidents soient vaccinés. Je pense qu'il est temps de poser la question à nouveau au prochain point de presse. Quel est le pourcentage de nos travailleurs en CHSLD et dans le domaine de la santé qui ne sont pas vaccinés?
Je ne sais même pas si on est capable de savoir ça, Luc.
Ben, je pense que oui. Ben, il l'était au début, en tout cas.
Faudrait que tu prennes, à ce moment-là, toutes les personnes, mettons, qui reçoivent un salaire, d'une manière ou d'une autre, du système de santé, que ce soit d'un CIS, d'un CIUS,
Mais il faut que ce soit les travailleurs de première ligne.
Là, faudrait que tu fasses un croisement avec...
Le bureaucrate assis dans un bureau, ça m'intéresse pas beaucoup. C'est ceux qui interagissent avec les patients, puis entre eux.
Je me demande s'il n'y a pas un enjeu de protection des renseignements personnels ici, Luc, parce que d'aller fouiller dans...
On n'est pas obligé de les identifier, on veut juste savoir.
Dénominaliser, comme ils disent? Peut-être.
J'aimerais le savoir, parce que c'est drôlement important. À l'heure actuelle, Bernard, 35,1% des Québécois de 16 ans et plus, soit 28,3% de la population générale, a reçu au moins une première dose de vaccin. Et puis, pour arriver à une couverture de 75% d'ici le 24 juin, donc c'est 65 jours, le Québec va devoir administrer 51 000 doses par jour en moyenne, ce qui n'est pas inquiétant parce que le rythme actuel, on est en moyenne à 61 000 par jour, calculé sur une semaine.
Si on continue à avoir un approvisionnement régulier de vaccins et que la machine tient, puis notre machine est pas mal bonne, là, Luc, là, notre machine de vaccination.
Je te rappelle ce que le ministre Dubé a dit. La régularité de Pfizer est comme une horloge suisse.
Oui.
Alors, c'est comme ça, c'est quelque chose de bien à entendre.
Oui. Alors, ça va bien. Toi, en passant, là, tout à l'heure, je t'écoutais tout de suite après le point de presse. Tu te réjouissais avec raison de la bonne, gestion puis du leadership, dans le fond, de M. Dubé comme ministre de la Santé. Puis, tu sais, tu te félicitais aussi que la machine à vacciner fonctionnait bien. Puis, je me faisais la réflexion. C'est quand même assez rare que Luc se félicite que la machine de l'État marche rondement et livre de bons résultats. En général, tu es assez critique de la machine de l'État, puis je t'en tiens pas rigueur, tu as le droit, puis souvent, honnêtement, ta critique est justifiée, je suis pas toujours d'accord, mais souvent, elle est justifiée. Mais là, tu es vraiment comme impressionné, je pense que le mot est pas trop fort
Très impressionné, et je suis aussi impressionné d'apprendre que, par exemple, quelqu'un de près de moi qui est allé se faire vacciner, c'est la personne qui l'a vacciné, c'est une immigrante vénézuélienne, médecin dans son pays, mais on reconnaît pas sa compétence ici au Canada. Mmh. Un autre qui est allé se faire vacciner, c'était un inhalothérapeute. Moi, je trouve qu'il y a comme une sorte de solidarité. Tous ceux qui peuvent aider ont vraiment mis l'épaule à la roue. Et ça fait honneur au Québec. Et ça, c'est le Québec que j'aime du profond de mon cœur. Alors, je trouve que ça nous fait honneur, ça nous...
Oui, mais c'est comme on est critique avec raison. Par moment, on est un peu trop chialeux, moi, je trouve.
Pas trop. Non, je trouve que là-dessus, on a beaucoup suivi le gouvernement, toi et moi. C'est pas
qu'on
était à sa solde.
Non, je parle en général.
Ah,
comme,
ben là, on est
comme,
payé pour chialer.
Non, mais comme peuple, on est assez chialeux, les Québécois,
oui,
je pense.
Oui.
Puis de s'arrêter une fois de temps en temps, puis de souligner le positif, je pense que ça nous fait du bien. Ça nous fait du bien, en quelque part, de se dire, ben, on est capable d'être bon aussi.
Les grands centres de vaccination, là, qui sont situés à l'intérieur des limites de la ville de Montréal, là, c'est quelque chose d'entrer là. Tu l'as fait, hein, Bernard?
Oui, je suis allé, moi, à Bill Dernan.
À Bill Dernan. Ouais, bon, ouais. Ben justement, Bill Dernan, c'est un bel exemple. C'est comme, souvent, on parle de diversité. Voilà, il y a tout ce que tu veux.
Ah, mais je sais.
De tous les coins du monde.
Je sais.
Tout se passe. Moi, j'ai pas personne qui m'a adressé la parole en anglais là-dedans. Ce sont des gens venus de partout. Je me souviens que celui qui... tu sais, il y a quelqu'un au début qui te pose des questions là pour voir si t'es bon.
Oui.
Celui qui me posait les questions, c'était un Algérien. Et puis celle qui m'a fait l'injection...
Un Québécois d'origine algérienne.
Ben, Québécois d'origine algérienne.
Et moi aussi, je pense qu'on a parlé au même. En tout cas, moi, il était d'origine marocaine, algérienne ou tunisienne, là, un des trois. Et très gentil, très efficace.
Celle qui m'a administré le vaccin et qui était particulièrement gentille, pour ne pas dire charmante, elle était tunisienne. Mmh. Alors, écoute, dans ce temps-là, là, je rentre dans ça, là. Puis je dis, c'est ça le Québec que j'aime.
Ben, je comprends.
Tous ensemble, mm-hmm. Puis on a un ennemi, non, c'est un ennemi commun, c'est un virus, là, mais on y met l'épaule à la roue, puis on va s'en sortir. Je pense qu'on va s'en sortir. Puis je vais terminer sur une bonne note. On a sauvé nos cabanes à sucre, Bernard, en tout cas, une bonne partie. Écoute, l'affaire de ma cabane à la maison, ça a été un succès phénoménal.
Oui.
J'entendais de mes amis qui me disaient, on a fait venir ça, c'était bon, mais j'ai pas... réaliser que ça a généré 11,5 millions de dollars de retombées économiques, cette affaire-là.
Oui.
C'est extraordinaire. Il y avait déjà eu 200 cabanes à sucre qui avaient fermé. On avait peur littéralement à la survie de l'industrie du sirop d'érable.
Oui.
Ben là, ça aussi, c'est une autre affaire qui me rend fier, Bernard. Au début, là, tu sais, le take-out, t'allais là, puis t'avais un sac en papier qui t'attendait à la porte. Ils se sont organisés, les gens d'ici. Les restaurants se sont organisés, des systèmes de livraison. Vraiment, là, chapeau à tout ce monde-là. On est en train de la traverser ensemble.
Oui.
Puis c'est avec fierté qu'on va arriver au bout, là.
Très bien, mon Luc. Je te souhaite une bonne fin de journée. On se reparle demain.
À demain.
Puis j'en profite pour, je l'ai fait sur Twitter, mais j'en profite pour remercier Samuel qui m'a vacciné, justement, un étudiant en médecine. Hyacinthe dimanche. Et que je trouve ça magnifique. Une dame qui m'a... c'est la dame à qui j'ai parlé, là, qui rentrait et qui vérifiait toutes mes informations personnelles avant d'être vaccinée. Merci, Hyacinthe. Et il y a ce monsieur dont j'ai pas pris le nom, mais il a été très gentil, je l'ai dit. C'est un monsieur, là, je pense que d'origine algérienne, marocaine ou tunisienne, en tout cas, très très professionnel, très efficace, donc, à l'aréna Bill Dernan. Donc, merci, vous avez fait un travail formidable quand vous vous êtes occupé de moi. Puis en général, quand on entend les témoignages, ça revient tout le temps, l'efficacité du personnel, la gentillesse, la courtoisie. On est chanceux. On est chanceux d'avoir toutes ces personnes qui nous donnent un coup de main et qui font en sorte que la campagne de vaccination se passe bien. Alors, vous avez envie de pipi? À un moment donné, vous pouvez pas vous retenir. Vous essayez de comprendre ce qui se passe. On va en parler dans une quinzaine de minutes. C'est un grand mystère. Mais d'abord, on va parler vin de messe et je vous jure qu'il n'y a pas de lien entre les deux.